c'est l'heure du JT.
Il est pratiquement 19h, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour passer ce week-end en votre compagnie.
Putain, nous sommes le vendredi.
Ils veulent avoir leurs examens en fin d'année, c'est mieux de les réviser. Parce qu'il n'y aura pas d'examen en chocolat. Non.
Pension de retraite, pourquoi cette faible revalorisation
de la part du gouvernement ?
12 offres d'emploi pullulent sur le réseau de Pôle emploi.
Une question de santé publique et donc économique qui intéresse les entreprises.
La procédure fait intervenir un huissier qui vient notifier l'expulsion avant démolition.
Oui ou non, interdire le burkini,
ben ce maillot connerie, cette fois-ci, c'est sûr, je l'éteins là, je l'éteins la télé, même je l'éteins à tout jamais, tu vas voir ce qu'elle va voir, c'est qui.
Oh, René, tous les vendredis, c'est pareil, une télé explosée, hein. La plus rebelle des radios, la plus rebelle des radios. Wow.
À toutes et à tous, il est 19h, c'est l'heure du Canu Info et aujourd'hui on a plein de choses à vous raconter. On va commencer par vous parler des Gilets jaunes qui étaient en action jeudi dernier.
On vous passera ensuite l'appel des Gilets jaunes de Commercy.
Ensuite on vous parlera de la place des travailleuses précaires dans l'économie et sur les ronds-points des Gilets jaunes.
Et ensuite, on arrêtera de parler des Gilets jaunes pour parler du national et revenir sur la comptabilité des meurtres conjugaux.
Ensuite, on vous parlera des sanctions plus dures qui seront formulées à l'encontre des chômeurs et des chômeuses.
On verra ensuite comment les avocats et les avocates refusent les vidéo-audiences au droit d'asile.
Et ensuite, on vous parlera de l'incendie à la caserne Jourdain.
On lira un communiqué sur la grève de la faim au centre de rétention administrative de Vincennes.
Et on vous parlera des vitrines brisées du 31 décembre.
On filera ensuite à l'international, où ça, en Italie. On verra comment Salvini met en place une politique migratoire répressive. Et on finira ensuite, bien sûr, comme d'habitude, par l'agenda. Et peut-être même ce soir, un ACAB, encore une fois, tout nouveau.
Bonne écoute!
Canu Info.
Partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet.
Rubrique prêt.
Vive la République, vive la France.
Les mouvements sociaux.
Mais notre règne arrivera. Votre règne finira.
Rien ni personne ne pourra étouffer une révolte.
Tu as semé la graine de la haine, donc tu la récoltes.
Les rebelles et les rebuts ont tous opté pour le boycott. Faisons en sorte que les aisés nous les...
Et oui, un magnifique, encore une fois, jingle mouvement pour parler des Gilets jaunes qui ont réalisé plusieurs actions à Lyon ce jeudi 3 janvier. Qu'est-ce qui s'est passé d'abord? Eh bien, en fait, très tôt, devant Fezin, une centaine de Gilets jaunes venus du Rhône, de la Loire et de l'Isère se sont rassemblés devant la raffinerie de Fezin et ont réussi à la bloquer pendant un certain temps. Mais ensuite, du coup, les forces de l'ordre sont arrivées et du coup, bien malins, les gilets jaunes se sont un peu répartis dans toute la ville. Ils ont commencé par aller au McDo de Vénissieux, où ils ont commandé plusieurs centaines de commandes sans les prendre du tout, ce qui a complètement bloqué le McDo. Et ils sont allés pareil au Carrefour Vénissieux, où ils ont rempli des tonnes de chariots avant de laisser devant les caisses et de se barrer. Et donc ils ont essayé de faire la même coup à l'Auchan Saint-Priest. Malheureusement, les flics étaient là-bas et commençaient à voir un petit peu qu'ils allaient faire la même chose. Du coup, ils les ont empêchés de rentrer dans le centre commercial. Du coup, ben, bravo, bravo. Demain, pour les gilets jaunes, qu'est-ce qui se passe? C'est l'acte 8 à Lyon. Et du coup, ben, pas de blocage de centre commercial ce coup-ci, pas de... grosse manif pour autant, mais une manif pour autant avec plusieurs rendez-vous, un premier à 10h devant la gare des Brotteaux, et du coup, cet rassemblement est appelé pour une véritable démocratie, pour une justice sociale et fiscale et pour une transition écologique. Parce que peut-être je dis une connerie, je sais pas, c'est peut-être la marche pour le climat ou un truc comme ça demain, peut-être premier samedi du mois, peut-être ça va être un truc comme ça, d'où la transition écologique. Et donc l'objectif de cette manifestation est de faire du bruit, et donc les participants et participantes sont invités à se ramener avec sifflets et instruments. Mais il y a aussi un rassemblement à partir de 14h, place Bellecour, un peu le lieu traditionnel des rassemblements depuis le début du mouvement. Et enfin, les différents groupes de gilets jaunes de Lyon et Rhône-Alpes ont décidé de s'organiser lundi soir à partir de 19h dans une assemblée populaire des gilets jaunes de Lyon et d'ailleurs à la Bourse du Travail dans le 3e. Du coup, c'était la 2e, et donc tout ça se passe lundi soir.
Deuxième appel de Commercy, l'Assemblée des Assemblées. Notre deuxième appel s'adresse à tous les gilets jaunes, à toutes celles et ceux qui ne portent pas encore le gilet, mais qui ont quand même la rage au ventre. Cela fait désormais plus de 6 semaines que nous occupons les ronds-points, les cabanes, les places publiques, les routes et que nous sommes présents dans tous les esprits et toutes les conversations. Nous tenons bon. Cela fait bientôt longtemps. Cela faisait bien longtemps qu'une lutte n'avait pas été aussi suivie, aussi soutenue, ni aussi encourageante.
Encourageante, car nos gouvernants ont tremblé et tremblent encore sur leur piédestal. Encourageante, car ils commencent à concéder quelques miettes. Encourageante, car nous ne laissons désormais plus avoir par quelques os à ronger. Encourageante, car nous apprenons toutes et tous ensemble à nous respecter, à nous comprendre, à nous apprécier dans notre diversité. Des liens sont tissés, des modes de fonctionnement sont essayés, et ça, ils ne peuvent plus nous l'enlever.
Encourageante aussi, car nous avons compris qu'il ne faut plus nous diviser face à l'adversité. Nous avons compris que nos véritables ennemis, ce sont les quelques détenteurs d'une richesse immense qu'ils ne partagent pas. Les 500 personnes les plus riches de France ont multiplié par 3 leur fortune depuis la crise financière de 2008 pour atteindre 650 milliards d'euros. Les cadeaux fiscaux et sociaux faits aux plus grandes sociétés s'élèvent également à plusieurs centaines de millions de milliards par an. C'est intolérable. Encourageante enfin, car nous avons compris que nous étions capables de nous représenter nous-mêmes, sans tampon entre les puissants et le peuple, sans parti qui canalise les idées à leur seul profit, sans corps intermédiaire, davantage destiné à amortir les chocs, à huiler le système plutôt qu'à nous défendre.
Nous sommes aujourd'hui les victimes de la répression, plusieurs morts et des dizaines de blessés graves. Maudits soient ceux qui ont permis cela. Mais ils sachant que notre détermination est intacte, bien au contraire, nous sommes fiers de ce chemin accompli vite et de toutes ces prises de conscience qui sont autant de victoires sur le système écrasant. Et nous sentons très bien que cette fierté est partagée par énormément de gens. Comment pourrait-il en être autrement alors que ce système et ce gouvernement qui le représente n'ont de cesse de détruire les acquis sociaux, les liens entre les gens et notre chère planète. Il nous faut donc continuer, c'est vital. Il nous faut amplifier ces pressions, ces premiers résultats, sans hâte, sans nous épuiser, mais sans nous décourager non plus. Prenons le temps, réfléchissons autant que nous agissons.
Nous appelons donc toutes celles et ceux qui partagent cette rage et ce besoin de changement soit à continuer à porter fièrement le gilet jaune, soit à l'enfiler sans crainte. Il faut désormais nous rassembler partout, former des assemblées citoyennes, populaires, à taille humaine, où la parole et l'écoute sont reines. Des assemblées dans lesquelles, comme à Commercy, chaque décision est prise collectivement, où des délégués sont désignés pour appliquer et mettre en musique les décisions, pas l'inverse. Pas comme dans le système actuel. Ces assemblées porteront nos revendications populaires, égalitaires, sociales et écologiques.
Certains s'autoproclament représentants nationaux ou préparent des listes pour les futures élections. Nous pensons que ce n'est pas le bon procédé. Tout le monde le sent bien, la parole, notre parole, va se perdre dans ce dédale ou être détournée comme dans le système actuel. Nous réaffirmons ici une fois de plus l'absolue nécessité de nous laisser confisquer notre parole par personne. Une fois ces assemblées démocratiques créées, dans un maximum d'endroits, elles ouvriront des cahiers de revendications.
Le gouvernement a demandé aux maires de mettre en place des cahiers de doléances dans les mairies. Nous craignons qu'en faisant ainsi, nos revendications soient récupérées et arrangées à leur sauce et qu'à la fin, elles ne reflètent plus notre diversité. Nous devons impérativement garder la main sur ces moyens d'expression du peuple. Pour cela, nous appelons donc à ce qu'ils soient ouverts et tenus par les assemblées populaires. Qu'ils soient établis par le peuple et pour le peuple.
C'est pourquoi de Commercy, nous appelons maintenant à une grande réunion nationale des comités populaires locaux. Fort du succès de notre premier appel, nous vous proposons de l'organiser démocratiquement en janvier, ici à Commercy, avec des délégués de toute la France pour rassembler les cahiers de revendications et les mettre en commun. Nous vous proposons également d'y débattre tous ensemble des suites de notre mouvement. Nous vous proposons enfin de décider d'un mode d'organisation collectif des Gilets jaunes, authentiquement démocratique, issu du peuple et respectant les étapes de la délégation. Ensemble, créons l'Assemblée des Assemblées, la Commune des Communes. C'est le sens de l'histoire, c'est notre proposition.
Vive le pouvoir
au peuple, par le peuple et pour le peuple.
Et sur le rond-point de Commercy, comme sur d'autres ronds-points, on a pu remarquer la présence d'une forte proportion de femmes des classes populaires. C'est notamment ce que nous dit Pierre Rimbert dans Le Monde diplomatique de ce mois-ci. Il y a un gros dossier sur la question des gilets jaunes et je vais vous lire quelques passages de son article. Elle porte un gilet jaune, filtre la circulation sur les ronds-points, parlent de leur vie quotidienne, se battent. Infirmières, auxiliaires de vie sociale, assistantes maternelles, elles ont aussi endossé la parure fluorescente pour déchirer le voile qui d'ordinaire dérobe au regard extérieur les travailleuses des coulisses. Et alors Pierre Rimbert nous explique qu'elles ont été transférées au siècle dernier de l'univers familial, religieux ou charitable à celui du travail salarié. Et ces nouvelles tâches ne sautent aux yeux que lorsqu'elles ne sont plus prises en charge. Pour le reste, hein, en général, elles sont très peu visibles dans l'espace social. Elles sont femmes de ménage, dans les hôtels et dans les gares, employées des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les EHPAD donc, personnel hospitalier, ont tour à tour mené depuis la fin de l'année 2017 des batailles âpres et souvent victorieuses, comme celle menée dans l'hôtel de luxe, son nom m'échappe, à Paris, aux Champs-Élysées. En France, les travailleuses représentent 51% du salariat populaire formé par les ouvriers et employés. Et par comparaison, hein, en 68, la proportion n'était alors que de 35%. Et c'est intéressant de comparer ces deux chiffres, ce qui montre que depuis un demi-siècle, le nombre d'emplois masculins n'a pas beaucoup varié, évolué, en tout cas augmenté depuis 68. Et dans le même temps, celui des femmes a lui très fortement augmenté. Donc dans ce salariat précaire, puisqu'il est passé de 7,1 millions de travailleuses à 12,9 millions de travailleuses, ce qui veut dire qu'en d'autres termes, la quasi-totalité de la force de travail enrôlée depuis 50 ans est féminine, et toujours ou quasiment dans des conditions plus précaires et pour un salaire inférieur d'un quart. Voilà. Et Pierre Rimbert de continuer en nous rappelant que, à première vue, les travailleuses des services vitaux forment une nébuleuse de statuts éparpillés, de conditions d'exercice et d'existence hétéroclites, de lieux de travail éloignés. Mais de même que l'absence d'unité interne n'a pas empêché le mouvement des Gilets jaunes de faire corps, ce qui divise le prolétariat féminin des services apparaît à l'examen, peut-être, en tout cas c'est l'hypothèse qu'il formule lui, moins déterminant que les facteurs d'agrégation. Voilà, et notamment l'une des raisons qu'il donne à cette possibilité d'agrégation, c'est la force du nombre lorsqu'il réussit à sortir de son lieu de travail et le fait qu'il y ait au moins pour le début un adversaire commun. Et pourtant, les acteurs les plus conscients et les mieux organisés du mouvement ouvrier, regroupés autour du rail, des ports et des docks, de l'électricité, de la chimie, là où il y a encore donc des bastions syndicaux importants, savent que les luttes sociales décisives ne pourront éternellement reposer que sur eux, ces travailleurs souvent masculins, comme l'a montré en 2018 le conflit sur la réforme des chemins de fer. Ils ont vu depuis 4 décennies le pouvoir politique détruire leurs bastions, briser les statuts, privatiser leurs entreprises, réduire leurs effectifs, tandis que les médias associaient leur univers à un passé dépassé. À l'opposé, les secteurs féminins des services à la personne et des services publics, donc ceux-là même dont je vous ai fait une brève liste tout à l'heure, pâtissent d'une organisation souvent faible et de traditions de lutte encore récentes. Mais ils croissent et occupent dans l'imaginaire un espace dont les classes populaires ont été depuis longtemps chassées. Voilà. Alors, je pourrais continuer encore longtemps, mais je vous laisse découvrir cet article vous-même. Il est dans le dernier Monde diplomatique. On va s'écouter un petit morceau, mais avant ceci, cher animateur a 2-3 choses à vous dire.
Et oui, à dire que effectivement, on a peut-être pu, dans le Canu Info du vendredi soir, appeler comme ça au rassemblement des Gilets jaunes, peut-être sans mettre certaines nuances, qui notamment à Lyon, par exemple, où une partie du cortège des Gilets jaunes peut être constituée aussi de personnes de l'extrême droite, avec notamment des frictions entre les deux côtés des cortèges. Et notamment, j'aimerais vous mettre en garde contre un appel qui est publié sur Facebook le mercredi 9 janvier, où déjà 2000 personnes seraient intéressées pour un blocage spécifique de, non pas la Banque de France, comme on a pu le croire au début, mais en réalité la Banque Rothschild. Et du coup, cet appel, du coup, basé sur l'idée en fait que Rothschild serait la plus puissante de toutes les familles, qui contrôlerait les 13 familles. Donc les 13 familles, c'est un vieux requin de mer, je ne sais pas comment on dit, c'est un vieux thème, serpent de mer, voilà, l'antisémitisme français notamment, et qui du coup, en fait, va assimiler du coup la famille Rothschild le complot juif international qui voudrait contrôler le monde à travers l'argent et notamment à travers la banque Rothschild. Et du coup, a priori, peut-être cet appel du 9 janvier n'est pas forcément l'endroit où vous trouverez le plus de copains copines. Notamment, par contre, ce que vous pouvez faire si vous allez à la manif des Gilets jaunes demain, c'est que la dernière fois, les cheminots et les cheminotes de Lyon s'étaient notamment proposés pour se rassembler autour d'un gilet orange. Protéger au cas où il y aurait plutôt des faf qui seraient dans la manif, et du coup peut-être choisir vous-même si vous voulez aller à la manif ou pas. Toujours est-il que ne pas laisser le terrain à l'extrême droite dans ces manifs-là, mais faire attention quand même à qui on peut y trouver et avec qui on est et qui est à côté de nous quand même. Du coup, à vous de choisir pour demain.
We do set trends, and somewhat pretty trends, pretty ones. Not no shit like Coogee Tops or shit like that. We set trends, dude. We holler, we holler. You know what I mean? After me, it's gonna be someone else to take over holler.
Get it? Text a message, I don't know the number. Flexing on these niggas, every bone and muscle. Steady taking shots, never hurting them. Even then, y'all don't worry nothing. And I'd like to give a shout out to my niggas with the game plan. And shout out to my niggas with escape plans. 20 bands, rain dance. We can eat the rain check or we can make plans. Pockets loaded, rocket loaded, can't let's rock and roll this. Time to go, lock, stock and two smoking barrels locked and loaded. Diamonds blowing, chop, climbing on them. You think I'm jumping?
jumping out the window, how I got them open. Line around the corner, line them up, the block and over. Sometimes I even stop the smoking when it's time to focus. My shade, Dior, my pants, velour. Create, explore, expand, concord.
I came, I saw, I came, I saw. I praise the Lord, then break the law. I take what's mine, then take some more. It rains, it pours, it rains, it pours. I came, I saw, I came, I saw. I praise the Lord, then break the law. I take what's mine, then take some more. It rains, it pours, it rains, it pours. Yeah, I sold the pack, the loose, the hard. Yeah, I listen to X, I beat the bars. Yeah, snakes, the rats, the cats, the dogs, the games, a trap. Protect your heart. Yeah, I waited in line. Return, refine the new design. It's time to shine, to shine, to shine, to shine, to shine. I hustle, I flex. The world is mine. So please believe, allow the grease. These niggas, disease. Don't speak, we squeeze. I make the devil go weak. The knees, you hate, you're lame. You lost. I came, I saw, I came, I saw. I praise the Lord and break the law. I take what's mine and take some more. It rains, it pours, it rains, it pours. I came, I saw, I came, I saw. I praise the Lord and break the law. I take what's mine and take some more. It rains, it pours, it rains, it pours.
She came, I came, now what's my name? My chain, my pants with the chain. They know it's me, the hat and the shades. They heard my voice and they ran to the stage. My Vans, my brains, my mans, my babe, my girls, my ex, my hoes that I left. The way I step out the car, that's a flex. Get thanks, get fresh, raise the love, then finesse. Bless.
I came, I saw, I came, I saw. I praise the Lord, then break the law. I take what's mine, then take some more. It rains, it pours, it rains, it pours. I came, I saw, I came, I saw. I praise the Lord, then break the law. I take what's mine, then take some more. It rains, it pours, it rains, it pours.
Rubrique nationale.
Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes.
Il y a, d'un côté, un nouveau totalitarisme, et c'est nous.
C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit.
Et on commence avec un article de Libération dans lequel la journaliste Titiou Lecoq a tenu le décompte des féminicides qui ont eu lieu en France en 2017 et en 2018. Alors c'est pas seulement pour faire un décompte morbide qu'elle a fait ça, c'est surtout pour en quelque sorte personnaliser, enfin montrer ce qui se passe en fait derrière ces meurtres. Et elle en a compté 200, elle a compté 200 femmes du coup qui ont été tuées ces deux dernières années. Alors du coup elle reprend aussi point par point quelques fausses évidences. Donc déjà, elle dit qu'il faudrait arrêter de parler de femmes qui sont tuées sous les coups de leurs conjoints, mais qu'il faudrait bien parler de meurtre, parce qu'il y a bien l'intention de tuer dans ces actes. Alors je la cite, « Il y a ceux qui étranglent la main nue, ceux qui plantent un couteau de cuisine dans le cou, ceux qui brûlent vivante leur victime, ceux qui lui tirent dessus au fusil de chasse, ceux qui ont cogné jusqu'à la mort. » Il y a ceux qui appellent la police pour dire « j'ai tiré au fusil dans la tête de ma femme », ceux qui appellent les secours en expliquant qu'elle a glissé dans la salle de bain. Alors les hommes tuent parce qu'ils pensent que les femmes leur appartiennent, et c'est pas du tout par amour ou par dépit amoureux comme on peut entendre dire dans certains tribunaux ou dans certains journaux. C'est des hommes qui ne supportent pas que leurs femmes les quittent, qu'une autre refuse leurs avances, qu'une ex-conjoint fasse sa vie sans lui. C'est des hommes en fait qui considèrent les femmes comme des objets et pas du tout comme des personnes indépendantes. Et ces meurtres, ils concernent toutes les classes sociales et tous les âges. Alors Titiou Lecoq, donc la journaliste, elle estime que ce chiffre il représente une partie de la réalité. C'est une femme sur trois, c'est une femme tous les trois jours. Et en fait, il invisibilise les femmes qui ne sont pas mortes et qui ont réussi à s'échapper ou qui ont survécu aux blessures. Elle estime que c'est environ tous les jours en fait, qu'un homme tente de tuer sa compagne ou ex-compagne. Si on parle d'une femme tuée tous les trois jours, c'est seulement que le taux de réussite, donc celle qui le dit, n'est pas à 100%. Ce chiffre ne représente pas les femmes tuées par, entre parenthèses, entre guillemets, dépit amoureux, celles qui refusent donc les avances d'un homme, ni celles qui se suicident suite aux violences subies. La journaliste évoque également les victimes collatérales, les enfants, les parents, parfois les témoins de ces homicides, parfois tués eux aussi. Elle dénonce aussi l'attitude irresponsable de la justice qui minimise ces féminicides, en adoptant parfois la posture du « c'est une séparation qui se passe mal ». Donc l'article reprend nombre d'exemples et donne plus de détails sur ces femmes, et vous pouvez retrouver donc cet article sur le site de Libération. Et pour elle, donc c'est donc important du coup de considérer ces meurtres pour ce qu'ils sont, ne pas minimiser dans les journaux, dans les tribunaux, et puis surtout donner les moyens nécessaires aux associations qui soutiennent les femmes victimes de violences. Et récemment, dans l'actualité, justement pour donner un exemple de la déconsidération des violences faites aux femmes, on a entendu le cas de Aïda qui a été défenestrée par son compagnon il y a quelques années de ça, et en fait son compagnon a été condamné. Et elle devait toucher une indemnisation à hauteur de 90 000 euros. Sauf que le fonds de garantie des victimes retient seulement une indemnisation partielle parce que ce fonds considère que Aïda a une part de responsabilité dans ce qui lui est arrivé. Parce que la police était intervenue un peu plus tôt dans la soirée, qu'Aïda était partie du domicile de son compagnon, mais que faute de place où aller dans la nuit, elle a dû y retourner. Et c'est à ce moment-là que le compagnon a recommencé à la rouée de coups et elle a fini par la défenestrer. Donc du fait qu'elle soit retournée chez elle, c'est que finalement, en fait, elle est un peu responsable de son agression. Alors la loi, elle prévoit effectivement que la victime qui contribue par sa faute à son dommage peut voir son droit à l'indemnisation réduit et même parfois supprimé. C'est derrière ça que se cache le fonds de garantie. Les avocats ont saisi la CIVI, qui est la commission d'indemnisation des victimes d'infractions qui... Voilà. Et en fait, cette commission, elle tombe d'accord avec le fonds de garantie et qu'effectivement, elle serait responsable de la violence. Donc on est encore loin d'estimer que les agresseurs sont les seuls responsables et que les victimes sont des victimes et n'ont rien à voir avec ce qu'elles subissent.
Et sans transition aucune, vous en avez peut-être entendu parler parce que ça a été pas mal médiatisé ces derniers jours, 5 mois après l'adoption définitive de la loi Avenir Professionnel, c'est une loi qui était passée cet été. Parlement, un important décret d'application de cette loi visant à préciser les modalités pratiques du texte a été publié au journal officiel dimanche 30 décembre. Et que nous dit ce décret d'application ? Il prévoit notamment des sanctions renforcées envers les demandeuses et demandeurs d'emploi qui manqueraient à leurs obligations et renforce de fait le contrôle des chômeuses et chômeurs. Et les sanctions prévues contre elles et eux sont également renforcées. Alors, on pourrait résumer ça à deux grands axes. Le premier, c'est que dès le premier rendez-vous manqué, on a droit à un mois de radiation. Le second, c'est qu'une allocation supprimée, les allocations seront directement supprimées et non plus suspendues pour insuffisance de recherche d'emploi. Le premier point, c'est que le fait de ne pas se rendre à un rendez-vous avec un conseiller ou une conseillère devait au départ, quand ça a été annoncé, ce décret en mars, devait être sanctionné de 15 jours de radiation des listes. Finalement, ce sera un mois de radiation au premier rendez-vous loupé, 2 mois au deuxième manquement et 4 mois au troisième manquement constaté. Jusqu'à présent, le Code du travail n'était pas aussi précis sur les sanctions, au-delà du premier rendez-vous manqué. Il mentionnait seulement qu'en cas de manquement répété, le demandeur d'emploi pouvait être radié pendant une durée comprise entre 2 et 6 mois consécutifs. Donc désormais, dans le texte de ce décret d'application, le nombre de manquements donne directement droit à une sanction. Une allocation, par ailleurs, donc supprimée et non plus suspendue, ça veut dire que lorsque, par exemple, le demandeur refuse 2 offres jugées raisonnables, les notions de réduction et de suspension de l'allocation ont disparu du code de travail. L'allocation ne pourra désormais que connaître une suppression. Ainsi, dès 2 refus d'une offre raisonnable d'emploi, le demandeur verra son allocation supprimée pour un mois. S'il décline à nouveau deux offres, elle sera supprimée pour 2 mois consécutifs, puis pour 4 mois au troisième manquement. Donc plutôt que de mettre de côté les cotisations que tu aurais dû percevoir, là on les annule purement et simplement. En gros, tu avais 12 mois d'indemnité, tu refuses 2 offres d'emploi dites raisonnables, il ne te restera plus que 11 mois d'indemnité. Le décret limite par ailleurs les possibilités de refus d'un emploi trop mal payé et abroge la définition du salaire antérieurement perçu qui était pris en compte pour déterminer l'offre raisonnable d'emploi. En d'autres termes, tu avais le droit de refuser une offre d'emploi parce qu'elle te donnait un salaire qui était inférieur à celui que tu percevais avant d'être au chômage. Eh bien, cette clause-là est également suspendu. Voilà, donc vu le décret, on n'ose pas imaginer à quoi va ressembler la réforme de l'assurance chômage annoncée pour le début de cette année.
Et on vous parle d'une autre loi de merde, la loi Asile et Immigration, qui a été approuvée en septembre dernier, et d'un aspect particulier de celle-ci, c'est que cette loi prévoit que pour les personnes qui ont demandé l'asile et dont la demande a été rejetée en première instance par l'OFPRA, le recours qui avant était examiné à la Cour nationale du droit d'asile, et qui se trouve à Montreuil, du coup tous les demandeurs et demandeuses d'asile devaient se rendre à Montreuil pour cette audience, et à partir de janvier, elle pourra être faite par visioconférence, c'est-à-dire sur Skype. Pour faire simple, c'est-à-dire que le juge ou les juges seront à Montreuil avec une caméra et que la personne intéressée sera dans le lieu de sa résidence avec son avocat, avec un écran qui lie les deux. Alors le côté positif dont on va vous parler, c'est que les avocats avocates de Lyon, du coup du barreau de Lyon, sont en résistance par rapport à cette mesure qui devait être mise en place à Lyon et annoncée à partir de janvier comme première ville d'expérimentation de tout ça. Et les avocats avocates s'opposent catégoriquement à ce projet. Il faut savoir qu'à Lyon, il y a une petite salle spécifique qui a déjà été aménagée. Ça se trouve au premier étage du tribunal administratif qui est rue du Guesclin. C'est un espace constitué d'une table avec 3 micros placés face à 2 grands écrans plats fixés contre un mur. La salle dispose d'une caméra et d'un lecteur de documents avec 3 rangées de chaises pour le public. Du coup, voilà, super technologie pour une déshumanisation accrue des procès, des audiences des demandeurs et demandeuses d'asile. Et j'ai dit procès, c'est pas ça le mot, mais c'est que quand même, c'est des situations qui sont déjà hyper stressantes pour les personnes qui doivent raconter devant des juges qui sont pas forcément très bienveillants leur parcours extrêmement difficile et leur traumatisme. Donc voilà, ce qui s'est passé, c'est que pour pouvoir mettre en place cette mesure à Lyon, la présidente de la CNDA a demandé au barreau de Lyon de donner la liste d'avocats et avocates qui acceptent d'intervenir avec l'aide juridictionnelle. Parce qu'en gros, une personne qui n'a pas de ressources ou qui a peu de ressources peut faire demande d'aide juridictionnelle, et c'est la CNDA, la Cour nationale du droit d'asile, qui donne un avocat. Donc, ils se sont dit comme ça, on leur donnera un avocat commis d'office à Lyon. Sauf que le bâtonnier de Lyon, il a refusé de donner cette liste d'avocats et avocates suite à une réunion qu'il a eue avec le barreau, où cette proposition était rejetée à l'unanimité. Ce qui embête pas mal la présidente de la CNDA, parce que pour l'instant, voilà, il y a un peu une impossibilité pratique de mettre en place cette mesure. Du coup, voilà, les avocats et avocates, ils ont manifesté leur opposition à tout ça lors d'une réunion avec la présidente de la CNDA le 23 octobre, qui leur a répondu pour les rassurer. Quand vous êtes au cinéma, vous avez des émotions devant l'écran. Et voilà, de la même manière, il faudrait accepter des audiences par Skype. Voilà, ce qui propose les avocats et avocates de Lyon, c'est une autre solution qui, quand même, serait favorable aux demandeurs et demandeuses d'asile, ça serait des audiences foraines, c'est-à-dire le déplacement des magistrats et non pas des demandeurs et demandeuses d'asile à Paris, ce qui est extrêmement coûteux, mais le déplacement des magistrats dans d'autres villes pour effectivement éviter des demandeurs et demandeuses d'asile qui sont souvent sans ressources, en situation très très précaire, de devoir se rendre à Montreuil. Voilà, on vous tiendra au courant de la suite et on espère que cette initiative du barreau de Lyon donnera des idées à d'autres barreaux, d'autres villes.
Pour continuer, on souhaitait présenter l'affaire de la caserne Jourdain à Limoges. Donc on est à Limoges, c'est une petite ville du centre-ouest de la France. On y trouve 130 000 habitants, de la porcelaine, de l'émail et de la céramique. On dit d'elle qu'elle est la capitale des arts du feu. En vertu de cette tradition reconnue par l'UNESCO, la nuit du 17 septembre 2017, 5 véhicules de gendarmerie de la caserne Jourdain partent en fumée. Deux jours plus tard, un communiqué paraît, émanant de la rage, la révolte anarchiste des gendarmes exilés. On peut trouver ce texte sur Internet.
Nous quittons la gendarmerie car nous ne voulons plus tuer, mutiler, réprimer, contrôler, obéir. Depuis l'assassinat de Rémi Fraisse, nous sommes réunis pour réfléchir ensemble sur le sens de notre métier de gendarme mobile. Le meurtre d'Adama Traoré a confirmé nos doutes sur la pertinence de notre mission.
Nous ne voulons plus tabasser les manifestantes lors des manifestations.
Nous ne voulons plus terroriser la population en Nouvelle-Calédonie ou en Guyane.
Nous ne voulons plus servir de garde-chiourme dans les tribunaux.
Nous ne voulons plus faire office d'armée d'occupation en banlieue ou dans les anciennes colonies.
Nous ne voulons plus obéir aux politiciens et servir de bras armés du capital.
Nous ne voulons plus de chef du tout.
Notre caserne est une prison. Cette mutinerie est un premier pas vers la conquête de notre liberté. Nous appelons tous nos collègues qui, du haut de leur appartement de fonction, ont pu contempler le feu de joie de la nuit dernière à nous rejoindre.
Une procédure judiciaire se met en place. Une instruction est ouverte pour association de malfaiteurs par le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Limoges. Et ce n'est pas si facile de les trouver, ces malfaiteurs associés. Des recherches sont faites via le FNAEG, les fichiers nationaux des empreintes génétiques. Des traces d'ADN trouvées sur le portail de la gendarmerie semblent correspondre à d'autres, trouvées à Toulouse après une petite action de soutien aux exilés de Calais qui avaient ciblé le siège de la regrettée UMP. On cherche dès lors quelqu'un qui serait passé du cassoulet à la porcelaine. Quelqu'un qui aurait donc été toulousain et limougeot. Et on trouve S. S est un militant, la police le sait. Il a déjà refusé de donner son ADN. Il habite depuis 2 ans à Limoges, après un séjour toulousain, et il mène une vie très tranquille. Selon l'enquête sur ce dangereux personnage,
S fait de l'aviron.
S danse la salsa.
S joue au théâtre.
S va au cinéma.
S fait du vélo.
S rend visite à sa sœur.
S lave son linge sale.
S va au musée.
S fait de l'autostop. Donc, on a trouvé S, mais on n'a pas l'ombre d'une preuve contre lui. Et ça, ça embête les gendarmes, qui vont demander une petite faveur à la juge d'instruction. Oh, pas grand-chose, juste une petite procédure parfaitement illégale. Prendre l'ADN de S sans son consentement, sur le guidon de son vélo, pendant qu'il prend un cours de sa danse favorite. La juge s'empresse d'accepter. Et il s'avère que le profil ADN correspond à celui trouvé sur le portail de la caserne Jourdain. Youpi, disent les gendarmes. Mais pour Noël, ils en veulent plus, alors ils placent des micros dans l'appartement de S. Et puis tant qu'on y est, ils placent également ses amis sous surveillance, notamment téléphonique.
Le 27 mars 2018, à 6h05, c'est perquisition partout, justice nulle part. Plusieurs domiciles, à Limoges, Toulouse et Amberes, sont donc perquisitionnés. Et 3 personnes sont placées en garde à vue. On va les interroger sur chaque aspect de leur vie, pour tenter de constituer un faisceau d'indices qui serait probant. Dis-moi ce que tu lis, ce que tu manges, où tu vas en soirée, et je te dirai qui tu es, à la sauce policière. 2 personnes sont relâchées, faute d'éléments bien crédibles. Mais S, qui en plus a eu l'outrecuidance de critiquer la BAC dans son mémoire de master, est placé en préventif. Pour une fois que quelqu'un lit un mémoire, il est accusé de destruction en bande organisée. Ça fait maintenant 9 mois. Le seul élément probant pour l'instruction et qui justifie de le maintenir en prison, c'est cet ADN, pris, rappelons-le, sans son consentement. De nombreuses demandes de mise en liberté ont toutes été refusées, notamment au motif que des preuves pourraient disparaître. Sacrément fort ce S, il serait capable de détruire son ADN. Donc à l'heure actuelle, toujours pas de date de procès, et la surveillance est maintenue. Les parloirs sont écoutés, les personnes venues lui rendre visite sont prises en filature dès leur arrivée à la gare, les soirées de soutien sont surveillées. Et puis ces questionnements qui persistent, l'ADN étant un indice et non une preuve, qu'est-ce qui justifie le maintien de S en détention? Constitue-t-il une bande organisée à lui tout seul?
La plupart des informations sur cette affaire peuvent se trouver sur Internet, et on y trouvera aussi les dates des prochaines audiences et rassemblements. Nous sommes toutes des malfaiteurs.
Et du coup, maintenant, on va se diriger vers Vincennes, où le 3 janvier, des personnes emprisonnées dans ce qu'on appelle communément un centre de rétention administratif ont décidé de réagir donc face à une série de déportations violentes et cachées. Donc, et de réagir aussi face à la violence physique et psychologique quotidienne des policiers. Donc je vais vous lire le communiqué qu'ils ont produit donc le 3 janvier. Nous sommes des retenus du centre de rétention administrative de Vincennes en banlieue parisienne. Nous demandons la libération de tous les prisonniers, l'application de l'égalité entre tout le monde. On est comme tout le monde. Aujourd'hui, 3 janvier 2019, nous, 27 retenus du centre de rétention du bâtiment 2A, se sont mis en grève de la faim pour demander la libération tout de suite de tout le monde. Nous savons que d'autres enfermés dans au moins un autre bâtiment sont eux aussi en grève de la faim. Il paraît au moins une quinzaine. On a tous une histoire différente, qu'on soit travailleur, étudiant, depuis peu en France ou vivant ici depuis presque 20 ans. Et on a tous le droit de vivre ici où on a nos attaches. Nous sommes enfermés dans ce centre de rétention. Si on s'est mis aujourd'hui en grève de la faim, c'est aussi pour dénoncer tout ce qui se passe dans cette prison. Ces derniers jours, il y a eu beaucoup de vols cachés et violents. Des anciens d'ici nous ont raconté qu'il y a plusieurs années, la police ici était déjà violente. Il y a eu des copains tabassés, puis déportés en étant casqués, bâillonnés et scotchés. Il y a eu des copains drogués qui se sont réveillés de retour dans un pays où ils ne connaissaient plus grand monde. Les policiers ne respectent la loi que quand c'est contre nous. Mais quand légalement on devrait être libéré, souvent le juge n'en a rien à foutre et la police te déporte quand même. La police, comme toujours, elle s'en fout et l'État français aide. Si l'État n'est pas d'accord et si les businessmen ne faisaient pas d'argent, tout ça ne marcherait pas. Ce centre de rétention, il est sale, les toilettes et les douches, elles sont dégueulasses, la bouffe, elle est immonde.
Nous revendiquons la libération de tous les prisonniers. Être respecté et traité dignement, on n'est pas des chiens. La fermeture de ce centre de rétention administrative qui a des gros problèmes d'hygiène. Le respect de l'égalité entre tout le monde. La fin des violences policières, la fin des vols cachés et violents, de la bonne nourriture, un véritable accès aux soins.
Si on s'est mis en grève de la faim, c'est parce que quand on est allé voir les assos pour se plaindre, on nous a dit qu'il n'y avait rien à faire. Nous allons continuer notre grève demain et les prochains jours. Nous appelons un maximum de monde à nous soutenir dehors. On en a marre d'être traités comme des chiens. Et ça, c'est signé les retenus du bâtiment 2A. Donc voilà, nous, on les soutient très fort.
Et si vous voulez suivre la suite de notre lutte, vous pouvez aussi aller sur le site Labog, qui est... Non, ça, c'était pour... Non, sur le site Abalécra, qui vous permet de suivre les luttes sur les centres de rétention administrative. Et pour ce dont on vous parlait avant, qui est l'incendie de la caserne, vous pouvez aller sur le site Labog, qui est le site de la région Limousine, pour suivre aussi cette affaire.
Et il y en a deux qui ont réussi, deux détenus, qui ont réussi à se faire la malle cette semaine.
Bravo!
Qui ont, voilà, bravo à eux, ils ont su profiter des fêtes de fin d'année, justement là où bah, y a un peu moins de matons qui sont présents, parce que bah, du coup, c'est les fêtes, alors ils bossent moins. Et donc, alors il y a eu un premier prisonnier à Fresnes qui a réussi à s'échapper le 30 décembre. Alors, il a réussi à escalader les enceintes de la prison grâce à une échelle de drap, donc à l'ancienne, et ce qui a fait tiquer aussi, les gens ils trouvaient que c'était trop à l'ancienne. Non, les... Bref. C'était pas possible que ça ait pu marcher comme ça sans qu'il ait eu de l'aide. Enfin bon, bref. En tout cas, il a profité de la promenade pour s'enfuir. Et ce, malgré la surveillance spéciale qui lui était accordée, parce qu'il était étiqueté en plus DPS, alors c'est détenu particulièrement signalé. Et puis surtout, malgré 3 coups de feu qui ont été tirés depuis les miradors. Donc il a réussi à s'évader. Oui, voilà. Et puis il avait aussi déjà réussi à s'évader, en fait, une première fois, 2 ans auparavant, d'un tribunal. Pour l'instant, il court toujours, alors on espère que ça va durer longtemps pour lui. Et puis le deuxième, il s'est évadé d'une prison de Belgique à Namur, c'était le 1er janvier. Il faisait le ménage, et puis il se trouvait en fait pas loin de l'entrée, les portes étaient ouvertes pour qu'il puisse justement travailler tranquillement. Et comme personne ne regardait, il a pu sortir tranquillement de la prison. Et donc il n'a pas été attrapé lui non plus. Puis on peut juste dire aussi qu'il y a, pour le jour de l'an, il y a des personnes qui sont allées aussi faire des petits feux d'artifice à côté des prisons de Marseille et de Montpellier, puis peut-être aussi d'ailleurs, je ne sais pas. En tout cas, pour montrer aussi qu'il y avait de la solidarité dehors avec ceux qui sont dedans.
Et nuit du Nouvel An, toujours la nuit du Nouvel An, généralement, et théâtre, pardon, le moment en fait où il y a énormément en fait de violence, c'est-à-dire surtout de, pardon, ouais, de violence en tout cas urbaine. Et du coup, une nuit du réveillon, bah, du coup, qui, selon les médias, aurait été plus calme que celle des dernières années, du moins officiellement, mais qui en réalité en fait a vu de nombreuses personnes s'en prendre, alors, aux chiens de garde de ce monde, c'est-à-dire aux flics et aux pompiers, et surtout en fait aux bagnoles. Et alors, ça, à chaque fois, en fait, ça fait toujours un peu rigoler, la nuit du Nouvel An, machin. Moi, c'est vrai que je trouve ça toujours un peu, bah, c'est un peu, ouais, hop, c'est un peu ritualisé, c'est des dates précises, quoi. C'est le 31 décembre, c'est le 14 juillet, et là, c'est en train de devenir Halloween. Et du coup, c'est toujours en plus, et ben, dans une certaine zone géographique. Et, mais ça, en réalité, bah, les zones géographiques, c'est déjà explicable, en fait, par, et ben, le fait que les quartiers populaires sont à des endroits complètement ghettoisés. Mais du coup, bah, ces manifestations-là, pour moi, en fait, ça reste quand même des formes de révolte qui sont, nécessaires à mettre en avant. Et à quand même à regarder, à prendre en compte, parce que en fait c'est le refus de l'État total, en fait c'est complètement le refus de l'État dans toutes ces expressions en fait qui est pris pour cible dans ces manifestations, mais parce qu'en fait du coup on s'attaque d'abord aux flics, d'abord aux équipements publics, d'abord aux pompiers, d'abord à toutes en fait les manifestations de l'État, et du coup bah, c'est toujours le souvenir de novembre 2005 un petit peu en fait qui revient, et du coup qui et mis un petit peu en scène à ce moment-là, et c'est toujours un peu voilà la baston en fait entre le ministre de l'Intérieur qui dit on va pas donner de chiffres, mais bon on a quand même des chiffres parce qu'ils veulent pas qu'il y ait de concours en fait d'année en année, et donc du coup bah là par exemple cette année ce qu'on peut vous dire c'est qu'il y a eu une augmentation des interpellations, on est de passer de 370 à 300 comme l'année dernière, et bah on n'a pas forcément de compte du nombre de véhicules qui ont été incendiés, mais il y en a 277 en Île-de-France alors que l'année dernière c'était 250, donc si on en croit les médias ça serait une soirée plus calme, mais en réalité peut-être pas tellement, et surtout et ben du coup voilà, c'est l'idée de ce petit truc, c'est de revenir un peu sur toutes les un peu toujours cette vitrine des cette rubrique des vitrines brisées, bah c'est de revenir un petit peu du coup dans toute la France sur toutes les bagnoles et tous les trucs qui se sont passés la nuit du Saint-Sylvestre pour montrer que eh ben non, il y a encore des gens qu'on aura les couettes le Nouvel An et qui en profitent pour un peu exprimer leur rage, et ben bah, même si finalement ça part un peu bécassou, ça part un peu off, c'est ce soir ça sert à rien, et ben bah, en même temps c'est vraiment une rage qui s'exprime à ce moment-là, et les gens et ben bah, du coup c'est la preuve que ils peuvent et ben bah, s'énerver à des moments, et ben bah, peut-être c'est plus facile le 31 décembre à Halloween ou quoi, mais en tout cas c'est peut-être classe et en tout cas ça donne peut-être des idées pour d'autres fois. Du coup, eh ben, dans les Yvelines, qu'est-ce qui s'est passé le 31 décembre? Il y a 41 voix, ça va être un peu chiant par contre, je vous le dis tout de suite. Hein. Il y a, mais du coup, voilà, c'est pour montrer que c'est partout quoi. Donc dans les Yvelines, c'est vers Paris, il y a 41 voitures qui ont été brûlées et 13 autres qui ont été un petit peu, juste un tout petit peu cramées. Et donc ça, c'est en forte hausse par rapport à l'année dernière parce qu'il y avait 23 voitures qui avaient seulement brûlé. Et du coup, bah, bien entendu, bah, du coup, les forces de l'ordre ont été prises à partie, notamment à Trappes et à Guyancourt. En Seine-Saint-Denis, du coup, il y a 99, alors c'est vrai que 99, ils auraient peut-être pu aller jusqu'à 100 quand même, ça là, un peu raté quand même, qui ont été brûlés, et 9 pots de poubelle, et malheureusement 31 personnes qui ont été interpellées et 24 qui ont été placées en garde à vue. Et alors en Alsace, là, a priori, en Alsace, bah, il y a eu un gros bordel quand même, parce qu'il y a eu des voitures, des bennes à ordures, des poubelles, du mobilier urbain à Toulouse, mais aussi Kingersheim, à Winterheim, et aussi dans d'autres quartiers autour de Mulhouse, et à Wittelsheim, voilà, et donc du coup, bah, toujours pareil, à cet endroit-là, des centaines de bagnoles qu'on cramait et un certain nombre de mobilier urbain, et surtout ce qui s'est passé pas mal autour de Mulhouse, et ben c'est que les forces de l'ordre ont été l'objet de jets de pierres et d'attaques de mortiers, du coup il y a un certain nombre de bagnoles de flics qui ont eu leurs vitrines pétées. Et alors, bah, s'il ne soit pas que dans le nord-est, il y a aussi à Montpellier, et oui, parce qu'à Montpellier, il y a 20 bagnoles et 10 scooters qui ont cramé et 10 containers qui ont été incendiés. Et donc, ça, c'est la même chose qui s'est passée notamment à Béziers et à Frontignan-la-Pérane. Alors, ça, je crois que c'est dans le sud, au vu du nom, mais à vous dire exactement où c'est, j'en sais rien. Et donc, du coup, on passe bah, de l'est à l'ouest, parce qu'on va à Nantes où les policiers et les pompiers ont dû intervenir pendant toute la nuit, notamment dans les quartiers nantais pour des feux de poubelles, de véhicules et un nombre à peu près équivalent au ceux de l'année dernière. Ouais, c'est pas fini, attention, parce que là j'étais à Nantes, et ça, j'aurais pu organiser un peu, parce que là j'étais à Nantes et là je redescends à Nice où du coup il y a une quarantaine de bagnoles, mais c'est pour vous dire que c'est de partout quoi, du coup il y a une quarantaine de bagnoles qui ont été cramées, et là ça rebourre, donc là je remonte dans l'Est. où il y a à Sarrebourg, du coup, il y a un petit groupe de jeunes bien malins qui ont allumé des feux. Et du coup, bah, quand les feux arrivent, il y a les pompiers qui arrivent. Et quand il y a les pompiers, il y a les flics. Et du coup, ils en profitent pour attaquer les flics. Et donc, ça, ils l'ont fait 2-3 fois dans la soirée. Du coup, pas mal, bien malin quand même à Sarrebourg. Dans le Rhône, plus proche de nous, du coup, vers Lyon, et bah, il y a une cinquantaine de bagnoles qui ont brûlé principalement à l'est de l'agglomération. Du coup, peut-être qu'il faut voir une répartition géographique du cramage de bagnoles. Est-ce qu'il faut y voir une répartition géographique aussi et bah, des ressources? Et bah, peut-être, parce qu'il y a peut-être plus de pauvres à Lyon, à l'est qu'à l'ouest, et du coup peut-être on a plus la rage contre la société quand on habite à l'est de Lyon qu'à l'ouest. Ah. Pardon. Et à Toulouse, et bah Toulouse, voilà aussi une cinquantaine de bagnoles qui crament. Pareil à Bordeaux et dans les Bouches-du-Rhône, ça c'est plutôt vers Marseille, du coup pas moins de la prison des Baumettes. Et bah il y a seulement 22 bagnoles qui ont brûlé, seulement 8 à Marseille. Peut-être les gens étaient plus contre la prison que contre les bagnoles à Marseille, mais du coup c'est déjà pas mal d'être contre la prison. Et à Amiens, et là on remonte plutôt vers le nord-est. Où il y a à peu près ben, du coup, des voitures et des poubelles, au moins 10 voitures voilà, qui ont été incendiées. Et du coup, tout ça pour dire que la 31 Sylvestre, eh ben, ça bouge encore et on a encore de la rage et on espère que ça va continuer.
Tous les vendredis, 19h40, votre chroniqueur préféré pour Pierre, Mobilier Urbain et Vitrine.
And now in the Canu Info.
Rubrique internationale. International.
Rubrique.
Cronaca internationale.
Et on part à l'international et notamment en Italie. Parce que dans les derniers mois, il y a eu des nouvelles lois d'approuver, notamment un décret-loi qui s'appelle Sécurité et Immigration et qui a été proposé par le ministre de l'Intérieur Salvini, qui, comme vous le savez sûrement, vient de la Ligue Nord, donc le parti de extrême droite xénophobe, et qui a énormément de pouvoir en Italie, et non seulement du pouvoir pratique, mais aussi beaucoup de pouvoir médiatique et ce qui contribue depuis à l'élection du nouveau gouvernement à créer un espèce de climat de xénophobie presque, comment dire, normal, légitime, genre les gens se permettent des actes de violence xénophobes que avant n'arrivait pas. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Le 29 novembre, la Chambre des députés italienne a approuvé ce décret-loi qui a comme but explicite le fait d'accorder moins de protection aux personnes qui demandent l'asile en Italie et de plus expulser les personnes en situation irrégulière ou au moins leur rendre la vie beaucoup plus dure. Du coup, ce qui se passe, c'est un changement radical quand même dans le fonctionnement de l'accueil des demandeurs et demandeuses d'asile en Italie. Ce qu'il faut savoir, que jusque-là, le système en Italie de l'accueil des migrants et migrantes était relativement souple, par exemple par rapport à celui français. Du coup, c'était pas forcément bien géré, l'accueil était pas bon du tout, mais il y avait une espèce de souplesse juridique qui permettait quand même à pas mal de personnes ayant eu un parcours extrêmement difficile d'avoir une sorte de titre de séjour, de protection temporaire. Il faut savoir qu'en Italie, par exemple, une personne qui demande l'asile, au bout de 2 mois, a le droit de travailler, chose qui n'arrive pas du tout en France. Voilà, du coup, ce système un peu souple, et un peu à l'arrache aussi à des moments, et ben, le but, c'est de le rendre de plus en plus rigide à l'image du système qui se développe au niveau européen. Du coup, en parallèle avec des règlements et des directives européennes qui concernent l'accueil des demandeurs et demandeuses d'asile, mais également la rétention des personnes en situation irrégulière, l'expulsion, etc. Du coup, dans les quelques points dont c'est bien de parler de cette loi, sans rentrer trop dans les détails, il y a une augmentation de la durée de rétention. Dans les centres de rétention, donc les CRA, qui s'appellent le Centri per il Rimpatrio en Italie, qui jusque-là étaient possibles jusqu'à 90 jours au maximum. ce qui est la nouvelle durée possible en France depuis que la nouvelle loi a été approuvée. Donc c'est déjà quelque chose qui est extrêmement long et inutile, et donc cette durée a été doublée. Donc maintenant, les personnes en situation irrégulière qui sont mises en centre de rétention, elles pourront y rester 180 jours, c'est-à-dire 6 mois, en attendant que les autorités italiennes essayent de les renvoyer vers leur pays. Sachant que c'est quelque chose qui ne se passe pas vraiment en général. Le temps de rétention, qui ne s'appelle pas comme ça, dans les hotspots ou dans les zones d'attente, il a augmenté à 30 jours. Et aussi, il y a beaucoup d'argent qui est destiné à financer le système d'expulsion, en gros. Il y a aussi une augmentation des cas de révocation des titres de séjour pour des actes de violence sexuelle, mais aussi de vol, de production, de détention de stupéfiants. Voilà, du coup, tous les petits crimes rentrent quand même dans la liste de délits qui pourraient être sanctionnés de double peine. Révocation de titre de séjour. Et aussi, l'une des mesures dont on parle le plus actuellement en Italie, c'est la fin de la protection humanitaire. Du coup, c'est quoi cette protection humanitaire ? Alors, une personne qui demande l'asile en Italie, jusque-là, avait trois réponses positives possibles. Du coup, elle pouvait avoir la reconnaissance du statut de réfugié, donc l'asile. Elle pouvait avoir la protection subsidiaire. Donc jusque-là, c'est deux protections qui existent en France également. Et en Italie, il y avait la possibilité d'accorder à cette personne la protection humanitaire. Donc c'était une espèce de catégorie fourre-tout, mais assez large et assez souple. Et qui, du coup, pouvait par exemple permettre de protéger des personnes qui avaient vécu des tortures en Libye, qui avaient eu des parcours extrêmement difficiles lors du trajet, mais qui ne répondaient pas aux critères un peu stricts de la Convention de Genève. Et il faut savoir que ça correspondait aux 57% des protections accordées en 2017. Donc on part de 39 000 personnes dans les deux dernières années. Donc le fait que cette protection ait été, elle n'existe plus, fait que sûrement le but c'est d'accorder de moins en moins de protection aux personnes qui demandent l'asile en Italie, certes, mais aussi pour les personnes qui ont déjà cette protection, ça implique plein de conséquences, c'est-à-dire que probablement c'est des personnes qui travaillent déjà en Italie, qui sont déjà en situation régulière, probablement elles ne vont pas voir leur titre renouvelé. Et aussi, elles ne vont plus avoir accès au système d'accueil. Donc, il y a des centres d'hébergement pour ces personnes, pour les aider à trouver un logement, un travail, tout ça, tout ça. Et bien, tout ça, c'est fini. Ce qui fait que dans certaines villes d'Italie, notamment à Catane, à Crotone, et on verra bien ce qui se passe par la suite, et bien, les personnes ayant la protection humanitaire ont été rapidement expulsées des centres où elles étaient. Et tous les projets d'aide à l'accueil et à l'intégration, entre guillemets bien entendu, ont été soudainement interrompus parce qu'on considère que de toute manière ces personnes ne sont plus vouées à rester en Italie. Il faut aussi savoir qu'il y a très peu de monde qui est expulsé d'Italie parce que non seulement il n'y a pas les financements pour vraiment mettre ça en place, mais aussi il y a très peu d'accords internationaux qui permettent concrètement le renvoi des personnes. Ce qui fait que toutes ces personnes en fait, sont vouées par ce décret à se retrouver à la rue et sans papier. Donc ce décret, bah, voilà, il crée toute une très grande partie des populations migrantes qui sera coincée au niveau de papier et que juste là, depuis quelques années, était au contraire en situation régulière et travaillait. Voilà, du coup, tout ça pour dire que cette politique a été fortement condamnée aussi par l'UNHCR, donc le comité de l'ONU, pour les réfugiés. Voilà, la politique italienne est très fortement condamnée, sans oublier qu'elle ressemble de plus en plus à la politique migratoire française et des autres pays de l'Europe, et que du coup c'est une politique européenne qu'il faut combattre.
Et on fait quoi maintenant ?
Devine, mon premier est une personne qui n'a pas mangé. Mon second est, oui, en russe. Et mon tout est un outil permettant d'associer des actions et des moments et d'organiser ainsi son temps. C'est...
L'agenda !
Et oui, vous l'aurez compris, si jamais vous avez envie de vous joindre, ou en tout cas d'aller voir ce qui se passe du côté des Gilets jaunes, toute proportion gardée, 10h Brotteau, 14h Bellecour. Et sinon, de toute façon, peut-être que vous aurez envie de regarder un film l'après-midi. Et quelle chance, La Plume Noire et notamment la CGA organisent son premier Café Féministe où vous aurez l'occasion de regarder Priscilla Folle du Désert. C'est à 15h, c'est à La Plume Noire et c'est demain.
Et oui, et sinon, une chose dont on n'a pas parlé aujourd'hui, mais c'est les 7 ans de la mort de Wissam. Et du coup, il y a un rassemblement à Paris. Donc Wissam, c'est quelqu'un qui s'est fait tabasser par les flics et qui en est mort. Donc il y a 7 ans. Et il y a un rassemblement donc demain à Paris. Donc le rendez-vous, c'est à 13h12 à Châtelet, près de la Fontaine des Innocents. Voilà.
Et Gilets jaunes, toujours, si vous avez envie d'aller à une assemblée populaire et peut-être d'aller porter une voix anti-autoritaire, libertaire, émancipatrice, vous pouvez vous rendre lundi à la Bourse du Travail de Lyon et c'est à 19h, salle Moissonnier.
Et ensuite, c'est les prochains rendez-vous de... Tu peux remonter, s'il te plaît ? Ah oui, du groupe de soins. Désolé. Et donc, je vais vous donner les prochains rendez-vous du groupe de soins pour cette année. Donc déjà, le premier rendez-vous, c'est le 10 janvier. On va parler de la maladie de Lyme. Ensuite, c'est le 14 février. On va se plonger sur le système neurologique. Et puis, le 14 mars, où on se retrouve autour du système respiratoire et des allergies respiratoires. Voilà, et tout ça, ça va être... Le 2e du juin et à 19h dans la salle de l'Amicale, pardon. Voilà.
L'Amicale, 31 rue Sébastien Griff, dans le 7e.
Où tu pourras dimanche manger des pizzas, dimanche soir aussi.
Et voilà.
Bonjour, je m'appelle Lily et j'ai 8 ans. Je voudrais savoir ce que ça veut dire ACAB.
Radio Canu, la plus nulle des radios.
Ah bah oui, bah alors aujourd'hui, ACAB, ça veut dire...
Ah,
ça anéantit des bagnoles.